J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme qui parle. Pourtant, il a failli ne pas parler. Il a failli tomber lui aussi dans le cri de l'opinion. Vous vous souvenez de Platon dans le Philèbe, l'opinion est du genre du cri. Il a failli crier, répondre au cri de l'autre par son propre cri, céder à la culture du clash, de l'humiliation. Il faut dire que l'autre n'y allait pas de main morte. Au lieu d'écouter son argument, il le réduisait à son identité. Au lieu de l'interroger sur ce qu'il disait, il le réduisait à ce qu'il était. Comment a-t-il fait pour ne pas se laisser prendre ? Comment est-il sorti du piège du clash ? Eh bien d'abord, il a laissé un silence. Il a donné un peu de temps à son affect pour redescendre. Et ensuite, il a essayé d'écouter. Au fond, qu'est-ce que l'autre voulait lui dire ? Qu'est-ce qui semblait vraiment important pour lui ? Il y avait bien une attaque en surface, mais dessous, n'y avait-il pas autre chose ? Et posément, calmement, il a dit à l'autre qu'il avait entendu que quelque chose était important pour lui. L'autre a eu l'air surpris de ne pas se faire agresser. Et finalement, c'est comme s'il n'avait lui-même attendu que cela, cette douceur revenue, cette attention. Il a changé de ton et même d'attitude physique, de posture. Et c'est alors que lui est revenu ce proverbe amusant. On n'a qu'une bouche, mais deux oreilles. Est-ce à dire qu'il faut écouter deux fois avant de parler ? Qu'il faut écouter beaucoup et parler un peu ? Il a dit que c'était juste, que c'était ça, en effet, qui était important pour lui. Et lui a demandé ce qu'il en pensait. Et à son tour, il a écouté sa réponse. Il aura fallu que l'un des deux fasse le premier pas pour qu'ils entrent tous les deux dans la danse du dialogue, pour qu'ils se parlent enfin. Mais si personne ne fait le premier pas, si personne ne commence par ouvrir la possibilité de l'écoute, si personne ne fait droit à un peu de silence, si chacun reste accroché à sa position, à son cri, à sa volonté de l'emporter. Eh bien, pour en parler ce matin, pour parler de ce que c'est que parler et de la possibilité d'une parole juste, j'ai la joie de recevoir un dramaturge, écrivain, metteur en scène, l'un des rares metteurs en scène français à créer des spectacles à Londres, également docteur en philosophie et en littérature, créateur du Centre des Arts de la Parole, auteur chez Actes Sud d'un très joli essai « Il faut voir comment on se parle », sous-titré « Manifeste pour les arts de la parole », Gérald Garuti est avec nous ce matin sous le soleil de Platon. Platon qui justement combattit la parole injuste des sophistes. Et en sa compagnie, nous allons nous demander comment retrouver une parole juste, comment réapprendre à se parler.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Gérald Garuti.
Bonjour Charles Pépin.
Eh bien merci d'être là.
Merci à vous.
Et merci surtout pour tout ce que vous faites pour la parole. Pour qu'on réapprenne à se parler, en plus de votre métier de dramaturge, metteur en scène, écrivain, vous avez créé le Centre des Arts de la Parole. Vous avez publié ce livre que j'ai entre les mains, un manifeste pour les arts de la parole. Alors quel a été le déclencheur de ce militantisme ?
Militantisme, oui, je dirais volonté d'humanisme, et dans un monde sans doute de plus en plus déshumanisé. Et le déclencheur, je dirais conjoncturel, puisqu'on est sous le soleil de Platon, ouais. On a quand même le droit d'évoquer Aristote, et donc il y a différents types de causes, il y a des causes de différentes échelles, et je dirais que la cause conjoncturelle, ça a été un moment à Londres où j'ai créé un spectacle, Tartuffe, un spectacle bilingue, sur une scène royale, et c'était en plein Brexit, donc faire un spectacle à ce moment-là, qui dit qu'on faut créer des ponts au lieu de lancer des murs ou poser des murs, évidemment c'est un peu une provocation.
Et je crois que ça n'est jamais arrivé.
Non, c'était effectivement la première fois, et surtout en termes de moment, il s'agissait vraiment de montrer qu'on pouvait faire se rencontrer deux mondes, le monde de Shakespeare, le monde de Molière, ouais. Alors que l'Angleterre, elle, partait à la dérive, et c'était le moment du grand nom. Et à ce moment-là, pour en ajouter, Donald Trump est en visite d'État à Londres, et commence à... Alors, théoriser, le mot est un peu fort pour Trump, mais en tout cas, à utiliser la notion de vérité alternative. Ouais. Et donc, je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait quand même un problème sur la parole publique. Alors, on connaît la propagande, les mensonges d'État, enfin, tout ceci est connu, mais l'idée de simplement dire que la réalité n'existe pas, c'est-à-dire que c'est le réel qui se trompe, et que c'est l'idéologie qui a raison. On l'avait vu dans le système totalitaire présenté par Arendt, mais le fait que le leader du monde libre, autoproclamé, bien soit dans ce déni de réalité, mais il y a quand même un problème avec la parole et le référent de la parole avec la vérité, puisque vous évoquez Platon et les sophistes, ouais. Une parole sans référent, une parole qui ne réfère qu'à elle-même, d'ailleurs on voit ce que ça donne aujourd'hui, puisque une parole chasse l'autre, ou plutôt un discours chasse l'autre, que c'est à peine si on se souvient de ce qui s'est dit hier, et la question de à quoi on se réfère, quel est le socle de réel, quel est le socle de vérité, à quoi tend la parole, et bien c'est ce qui a commencé à m'alerter. Ajouter à cela deux ans plus tard le Covid, avec le grand tranchement, avec chacun pour soi, chacun chez soi, et en même temps cette espèce de soif de lien qu'on a tenté de surmonter par des connexions multiples. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment un problème d'atomisation. C'est-à-dire qu'on parle de plus en plus et on se parle de moins en moins.
Alors, je vous lis au début de ce manifeste, Gérald Garrucci, manifeste pour les arts de la parole. Il faut voir comment on se parle, avec un écho à Alain Souchon. Je vous lis. Nous vivons dans un monde de bruit et de fureur, un monde de tics, de clics et de claques, un monde de rumeurs, de tweets, de bashing et de clash, d'infox, de swipe, de fakes, de battle, de lol et de like, un monde digital où l'on montre du doigt, où l'on met à l'index, où l'on tranche du pouce, où l'on cloue au pilori planétaire, un monde de réseau où l'on tue pour un mot. Jamais l'humanité n'a autant pris la parole, phénomène inédit dans l'histoire, à mains égards, opportunité inouïe, tout le monde s'exprime, s'étale, se lâche, se fâche, se casse, partout ça parle, mais est-ce que ça s'écoute? Est-ce que pour autant on se parle?
Oui, c'est d'abord, vous évoquiez Souchon, il faut tout le temps citer les grands philosophes.
Ça, c'est
donc,
vrai.
Donc, il faut voir comment on nous parle. C'était cette chanson Full Sentimental, les années 90, et qui a énormément marqué. Et à l'époque, si je puis dire, il y avait encore un nous. Il faut voir comment on nous parle. C'est-à-dire qu'il y avait les marchands, si je puis dire, le marché, ouais. Ceux qui voulaient nous gaver et nous vider. Et puis, il y avait le nous. Eh bien, aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, je considère que nous avons perdu ce nous. Et que c'est pour ça que j'ai écrit « Il faut voir comment on se parle ». C'est-à-dire qu'on a passé un cran supplémentaire, un seuil dans la solitude générale. Baudelaire disait qu'on n'est jamais aussi seul que dans les foules, par exemple. Eh bien là, on n'a même plus la foule, puisqu'une foule, c'est compact. Nous sommes atomisés, et donc on se parle les uns les autres. Tout à l'heure, je venais à vélo à la maison de la radio, et il se trouve que quelqu'un a traversé sur la piste cyclable, et donc je l'ai évité, il m'a traité, comme il se doit, de connard. Et c'est ce que maintenant tout le monde fait. Nous sommes dans un monde de connards, c'est-à-dire que tout le monde est le connard de l'autre, et que on passe son temps, non pas dans une forme de civilité ou de courtoisie, mais on passe son temps, véritablement, à se balancer des choses. Donc effectivement, cette parole est devenue une parole de trait, si je puis dire, et une parole on pourrait dire, une parole balistique.
Bonjour, merci, hein. Bonjour. Bonjour.
Ah non, je ne vois pas.
Alors, vas-y, casse-toi alors.
Une salive.
Casse-toi alors. Merci.
Donc là, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui disait quand même casse-toi, pauvre con. Mm.
Oui, bah écoutez, il faut toujours donner le bon exemple. Et après, il ne faut pas s'étonner dès lors que dans des assemblées, par exemple, dites nationales, une insulte par là, un bras d'honneur par-ci, il ne faut pas s'étonner que la parole soit dégradée, puisque la parole publique, la parole qui est censée être portée à son plus haut niveau, en termes de, j'allais dire, de sacralité républicaine, oui. Eh bien, cette parole-là, elle-même, est dégradée. Donc, effectivement, la pente remonte à il y a quelques temps. Alors, il faudrait faire cette généalogie, voir le faisceau de réseaux, à la fois technique, idéologique, historique, c'est évidemment une évolution d'un individualisme radical, puisque les autres existent de moins en moins, et donc, et pour moi c'est le cœur du sujet, la parole en moins, c'est de l'humanité en moins.
Et c'est aussi la possibilité de la violence, puisque effectivement, quand on n'a pas les mots, on se met à cogner. Alors ça c'est le constat, mais vous réagissez et vous proposez des choses, et vous avez monté à Aubervilliers le Centre des Arts de la Parole, donc j'ai à ce sujet deux questions, quels sont les 7 arts de la parole, et puis qu'est-ce que vous proposez comme action concrète?
Alors, c'est un enjeu pour moi fondamental, c'est de sortir de ce que j'appelle la parole balistique. Qu'est-ce que c'est que la parole balistique? Eh bien, c'est la réduction de la parole à l'éloquence, de l'éloquence à la performance, et de la performance à l'impact. Et on est vraiment aujourd'hui dans cette conception dominante qu'il faut que la parole impacte, qu'elle frappe, qu'elle cogne, de la punchline, c'est littéralement la ligne qui cogne, hein, c'est comme c'est ce que ça veut dire. Donc c'est le tweet qui marque, la petite phrase, le clash qu'on va mettre en valeur, voilà. Et c'est ce que j'appelle effectivement cette parole qui est envoyée, émise comme une balle, qui réduit l'autre à une cible. C'est l'éloquence du pauvre d'esprit, si je puis dire. C'est-à-dire que on est très très loin d'éloquence de Simone Veil, Martin Luther King, de Démosthène, enfin de ces gens qui ont changé le monde par leur parole et par une éloquence déployée, une éloquence qui grandit.
Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, c'était pas qu'une éloquence. Parce que l'éloquence, parfois, c'est aussi l'ennemi de la pensée, quand c'est creux, quand c'est verbeux, quand c'est des effets de sonorité. Alors que chez les gens que vous citez, c'était une éloquence au service de la vérité, au service du sens, au service d'un combat en termes de valeur.
Bien, voilà, exactement. Là, vous mettez le doigt sur l'essentiel, Charles, et je pense qu'il n'y a pas, pour moi, de parole sans éthique de la parole, donc sans une question de finalité, de sens de la parole. Quand la parole n'est qu'instrumentale, eh bien, ça peut donner les sophistes ou Hitler, pour avoir une rhétorique extrêmement puissante qui va mobiliser les foules. La question, pour moi, c'est dans quel sens? Et c'est ce qu'on a perdu. pourquoi parle-t-on, pourquoi, avec les deux directions, si je puis dire, de ce pourquoi, avec quelle origine, et pourquoi, vers quoi, why, what for. Et vraiment, cette question du sens de la parole, tous les sens du terme, la signification, la direction, je pense que on l'a passé en pertes et profits, justement, au prix d'une parole simplement d'efficacité et d'impact. Donc, en effet, les personnes qu'on évoque ne sont pas seulement des orateurs, ce sont, je pourrais dire, des gens qui ont fondé un rapport au monde, une éthique, une vision, et qui l'ont traduit par la parole. Ils ne sont pas au service de n'importe quoi.
Alors Gérald Garrutti, vous disiez très joliment, et on retrouve cette idée dans votre essai, il faut voir comment se parle aux éditions Actes Sud, et vous employez ce joli mot de éthique de la parole. Et bien, je voudrais vous faire écouter un extrait de documentaire à voix haute pour vous rassurer, vous n'êtes pas le seul à lutter.
J'ai grandi dans un endroit où plus les mots étaient simples, étaient rébarbatifs, étaient durs, plus on était respecté. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ces grands orateurs, pour ces politiciens plutôt. Même Sarkozy, j'admirais beaucoup quand il se mettait là, de sa petite taille, avec ses talonnettes et tout, il se mettait là, ouais, je veux une France libre. Et là, je me dis, mais putain, je te crois pas, mec, mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que tu m'emportes? Et je me dis, mais c'est cool de parler, en fait. C'est bien d'écrire, mais parler, c'est mieux. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Et c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est parce que ça peut changer ma vie.
Alors Gérald Garrutti, ce qui est beau dans cet extrait, c'est qu'il y a les deux idées. Il y a l'idée de s'adresser à quelqu'un, de respecter l'autre, et c'est ça l'éthique, mais il y a aussi l'idée du pouvoir quand même.
Bien, c'est indissociable. Il n'y a pas d'irénisme, d'angélisme. Bien sûr que la parole est un instrument de pouvoir, mais pour moi, il faut compenser cette dimension éthique, si je puis dire, en effet par une éthique. Il faut arriver à penser les deux ensemble. Et à quoi sert ce pouvoir? Pour citer un autre grand philosophe, à savoir Oncle Ben, l'oncle de Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Je sais que vous êtes amateur de pop philosophie, donc j'en profite pour que nous ayons des références communes. Donc effectivement, cette question du pouvoir et de la responsabilité du pouvoir, pour moi, est fondamentale. Aujourd'hui, on est dans une idée de la liberté de la parole, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité, et on confond libération de la parole et déchaînement de la violence. Donc la question éthique et la question de l'utilisation de ce pouvoir, quand il est fait pour grandir, eh bien ce pouvoir est évidemment un pouvoir, j'allais dire, bienfaisant. Et dans ce documentaire qui est splendide à voix haute, c'est ce qu'on voit, c'est comment cette éloquence peut faire grandir et comment l'accès à la parole peut permettre aussi de créer non seulement cette conquête du monde qu'évoquait ce jeune homme, mais aussi une forme de relation. Et j'y viens, c'est très important, il n'y a pas de parole sans écoute. Et au commencement était l'écoute, alors commencement était le verbe, dit-on, ce verbe a jailli sur un fond de silence. Et le silence permet la résonance, et la résonance permet l'écoute. Vous savez, vous évoquiez le piano alors que nous arrivions tous les deux ici, nous touchons apparemment un tout petit peu cet instrument, chacun. Eh bien, quand vous touchez une note au piano, un do, vous avez l'harmonique avec le sol, puis avec le ré, puis après vous n'entendez plus, il y a le la. Mais tout ceci fait la rondeur, la couleur de la note, ce sont les harmoniques. Eh bien, en fait, la parole, pour pouvoir raisonner, demande du silence, et évidemment, demande de l'écoute. Et je reviens à votre question sur les sept arts de la parole, puisque... pour sortir d'une parole, d'une éloquence, si vous voulez simplement du clash ou de la conquête, eh bien, moi je pense qu'il faut déployer la parole sous toutes ses formes. Et passer de l'art de la parole, comme arme de destruction massive, aux arts de la parole, c'est-à-dire des arts de construction collective.
Alors les sept ?
Les sept. Donc les sept, trois arts de la création, le théâtre, la parole qui s'incarne, qui s'adresse, le récit, la parole qui se raconte, qui se déploie, la parole qui se formule, une poème, faire, fabriquer. Ça, c'est trois arts de la parole, de la création. Deux arts qui sont des arts de la transmission. L'éloquence, la parole pour convaincre, pour faire passer des idées. Et puis, la conférence, comment on transmet des savoirs. Et pour moi, une opinion, et on revient au sophisme, n'est pas un savoir. Et sinon, tout est relatif, il n'y a pas de vérité possible. Et puis, les deux derniers arts de la parole, qui sont des arts de l'interaction, le dialogue, la parole qui s'échange, et le débat, la parole qui se confronte. Et dire déjà que le dialogue et le débat sont des arts de la parole à élever au même niveau que le théâtre et le récit, c'est sortir d'une parole qui serait élitiste, c'est-à-dire artistique, esthétique, réservée à quelques-uns ou au divertissement, et une parole publique, collective, qui pourrait se déchaîner, je dirais, sans limite et surtout sans exigence. Donc pour moi, ces arts de la parole sont à la fois artistiques, intellectuels, citoyens, et surtout, ils embrassent l'ensemble des dimensions de l'humanité. La création, l'interaction et la transmission.
Et quelles sont les actions que vous menez donc au Centre des Arts de la Parole, qui est à Aubervilliers ?
Alors, nous sommes nés à Aubervilliers, mais au-delà d'un lieu, le CAP, le Centre des Arts de la Parole, est un mouvement, et nous intervenons dans tout un ensemble de secteurs, trois secteurs essentiellement. Oui. La création, avec des parcours que nous avons fait, par exemple, une odyssée de la parole, où en une journée, on va expérimenter les 7 heures de la parole, à partir d'une question. D'accord. Par exemple, que peut la parole contre la violence ? Et puis vous entendez un poème, vous avez un débat, un dialogue. Donc vous vivez...
Oui, on revit les 7 réponses.
On revit les 7 réponses à partir d'une question. Puisque les questions rassemblent, les réponses peuvent diviser, donc il s'agit de faire commun sur fond de différence. Mmh. Et on fait vivre cette expérience-là. On a aussi, par exemple, dans le bassin minier à Liévin, fait tout un parcours à la demande de la ville, puisqu'ils nous ont dit qu'on a besoin de créer ce lien, de refaire en sorte que les gens se parlent, donc avec des formations, avec des rencontres, avec tout ce qui permet de susciter les arts de la parole. Et troisième exemple sur ce volet que j'appellerais citoyen, nous avons fait un programme, par exemple, Voix au chapitre, avec le SAMU social, avec la Croix-Rouge, avec le Secours catholique, pour donner à des personnes qui n'ont littéralement pas voix au chapitre, et c'est l'art thérapeute écrivain Ismaël Jude qui le porte, et pour faire en sorte que, grâce au récit, ils puissent retrouver une forme d'expression et de dignité. Et ça donne des podcasts qui sont diffusés après. Ce n'est pas juste tendre un micro à quelqu'un trois minutes, comme le dit Kassovitz dans La Haine, on n'est pas à Thoiry, c'est pas du zoo, on vient voir les gens trois minutes. On leur donne le temps de formuler par le récit un des 7 arts de la parole leur identité. Voilà 3 des exemples de ce que nous faisons. Et puis, je dirais qu'un peu le point d'orgue sur le plan intellectuel, ce sont les états généraux de la parole.
Qui ont lieu tous les 2 ans.
Qui ont lieu tous les 2 ans, exactement. Que nous avons lancé pour la première édition à la Gaîté Lyrique, le 17 octobre dernier. Donc en une journée, il y a eu 900 participants, 90 intervenants, 35 sessions, pour un état, c'est le cas de le dire, général de la parole aujourd'hui. Comment on se parle dans le monde du travail, à l'école, dans la sphère publique, au sein des médias, chez les politiques? Quel est le temps nécessaire à la parole? Voilà, comment on peut aujourd'hui réfléchir à l'état de la parole en France?
Hello, goodbye.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Mais en général, ce qui se passe dans le dialogue, c'est à la fois la mise en place d'un contrat et puis, d'autre part, l'apaisement de la violence. Vous savez, dans la Bible, il y a un très très beau texte qui est dans le livre de Gédéon, où il y a d'un côté Gédéon, qui est toujours lui, et de l'autre côté, tantôt l'ange du Seigneur, tantôt le Seigneur, tantôt l'ange du Seigneur, tantôt le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a l'émetteur du message et le transmetteur. Et on ne sait jamais celui qui parle est émetteur ou transmetteur. C'est-à-dire si c'est le Seigneur lui-même ou l'ange, le porteur du message. Et donc ce qui est en jeu dans le dialogue, c'est toujours ça. C'est toujours, mais qui aimait ?
Alors Gérald Garrutti, on écoutait évidemment Michel Serres, et il se trouve que ça fait résonner des choses que j'ai lues dans votre manifeste pour les arts de la parole, Il faut voir comment on se parle, aux éditions Actes Sud, puisque un des 7 arts de la parole que vous développez, que vous encouragez, c'est le dialogue. Et dans le véritable dialogue, il n'y a pas, comme dans une communication de base, dans une pub, il n'y a pas un émetteur qui parle à un récepteur. En fait, ça danse, ça bouge, et c'est exactement ce que dit Michel Serres, on ne sait pas vraiment qui aimer.
Oui, c'est un peu comme dans une danse, comme un tango, c'est-à-dire à un moment on est entraîné, qui guide, qui est guidé, et il y a une forme de symbiose et d'interaction. Et je pense qu'un des problèmes contemporains, c'est que on pense que la parole est d'abord expression, émission, et pour moi, elle est d'abord relation et interaction. C'est-à-dire que c'est un art de l'autre, c'est un art de relation avec l'autre, de prise en compte de l'autre. C'est pour ça qu'on parlait de l'écoute, et moi je pense qu'il faudrait des formations à l'écoute partout, que l'écoute est fondamentale. Pas seulement l'empathie. L'empathie, c'est ouais. Évidemment indispensable. Et on peut voir ce que fait au sommet de l'État un manque d'empathie. Je pense que Donald Trump, sur l'échelle de l'empathie, est à peu près à zéro. Et on voit les conséquences que ça induit. Donc, pas seulement l'empathie, pas seulement, je dirais, l'éloquence. Et c'est très bien de faire le grand oral au bac, hein, mais avant. Il faut savoir qu'au grand oral, beaucoup de gens sont tétanisés, à commencer parfois par les profs eux-mêmes, parce que ils doivent entendre des élèves sur des matières qu'ils n'ont pas, qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Donc tout ça se prépare, et moi, à Londres, où j'ai commencé à mettre en scène, vous savez, les élèves, l'après-midi, jouent du Shakespeare. Tous les après-midi.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils sont en primaire ils vont jouer le roi Lear. Donc évidemment, en termes de relation, de confiance en soi, d'adresse, d'incarnation, de tout ce que permet cet art complet, cet art de la vie qui s'appelle par exemple le théâtre, eh bien, ça vous apprend que la base au théâtre, c'est l'écoute. Voilà.
J'en profite, je vous interromps, c'est parce qu'après on n'aura pas l'occasion d'y revenir. J'en profite pour vous interroger sur cette aventure anglaise. Vous êtes un des très rares metteurs en scène français à créer des spectacles à Londres, et pas n'importe où, hein, dans la prestigieuse Royal Shakespeare Company, au Théâtre Royal Haymarket. Et puis il y avait cette création que vous évoquiez en 2018. Comment vous êtes retrouvé comme ça en Angleterre ?
Écoutez, à la fois par passion, et comme souvent la passion l'implique, je dirais, par une forme d'inconscience, dans la mesure où, comme beaucoup d'élèves français, j'ai passé 7 ans à ne pas apprendre l'anglais, comme j'ai passé 7 ans à ne pas apprendre l'allemand, et donc je parlais extrêmement mal anglais, mais j'avais cette passion pour les auteurs anglais, notamment Shakespeare, pour les comédiens anglais que je trouvais formidables au cinéma, notamment Ian McKellen et quelques autres, et donc j'ai eu à un moment la chance d'avoir un poste à l'université de Cambridge comme lecteur, et c'était le seul poste où on ne devait pas parler anglais, puisque c'était des cours en littérature et philosophie en français, et ça a été une couverture pour moi pour plonger dans le théâtre anglais et aller notamment à l'ADC Theatre où ont été les Monty Python, Ian McKellen, à Vivia du théâtre anglais. C'est là-bas que j'ai commencé. J'ai bien dû finir par comprendre ce qu'ils disaient et par plonger dans cette langue. J'ai mis en scène Richard III et ça a été le début d'une aventure d'une vingtaine d'années où effectivement j'oscille entre la France et l'Angleterre. Et c'est vraiment intéressant parce que le monde de Shakespeare et le monde de Molière sont deux traditions, deux manières de jouer, deux manières de penser, et c'est assez passionnant de passer d'une langue à l'autre et parfois même de croiser les langues et croiser les regards. Et je pense que je n'ai pas de fascination idéalisée pour le monde anglo-saxon ou pour l'Angleterre, mais je sais aussi ce que chaque culture peut apporter à l'autre. Et pour en revenir à cette question du dialogue, vous savez qu'au Parlement anglais, il y a notamment, parce qu'il y a des debate societies, vous avez une tradition du débat et du dialogue avec ce vis-à-vis, ce système d'écoute. Eh bien, je pense que nous avons, alors on invoque souvent le dialogue en France, mais le problème c'est que ça n'est pas forcément d'abord dans notre culture. Ça n'est pas non plus dans les médias à part, dans des espaces qui sont privilégiés comme à la radio, où on peut avoir du temps. Quand vous m'avez dit au début de cette émission que nous allions avoir près d'une heure, trois quarts d'heure, très souvent, c'est le genre d'émission que j'aime, parce qu'on peut développer une pensée, mais très souvent, on vous demande d'aller très très vite. Et puis surtout, à l'inverse de ce que vous faites, parce que vous êtes philosophe, c'est que vous êtes dans un dialogue et vous répondez, il peut arriver que les gens aient préparé leurs questions, et les autres avec leurs réponses. Vous savez, c'est ce que disait Georges Marchais, hein. J'en ai fui poser la question... Et Georges Machin répond à un truc qui n'avait strictement rien à voir dans les années 80. Donc,
il voulait dire ce qu'il avait à dire.
Communiste. Mmh. Et il disait, et le journaliste disait, mais c'est pas ma question. Et Georges Machin répondait, mais c'est ma réponse. Vous avez votre question et j'ai ma réponse. C'est exactement l'inverse du dialogue. Ça ne se rencontre pas. Et l'un des problèmes des dialogues où on a deux émetteurs et pas de récepteur, ou plutôt le vrai dialogue, si on est en même temps émetteur et récepteur, et finalement on crée cette espèce de synergie. C'est ce que dit Descartes sur l'art de la conversation. Alors, les choses vont peut-être changer, mais il disait, comment je sais que j'ai face à moi non pas une machine, mais un être humain? C'est par l'art de la conversation.
Est-ce que vous pensez qu'il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler?
Alors, on parlerait vraiment assez peu si on le faisait véritablement, hein, techniquement, puis pour être metteur en scène, c'est compliqué de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, même quand on fait l'exercice de diction. Non, je pense qu'en tout cas, il faut tourner cette fois sa pensée dans sa tête. C'est-à-dire qu'il faut se demander ce qu'on va dire ne pas simplement être dans l'illusion que va jaillir la spontanéité de la parole. On confond la spontanéité et l'authenticité. On peut être authentique et authentique, ça peut être réfléchi, pensé, ça peut être mesuré, ça peut être sensé. Et la spontanéité, c'est j'ai envie de claquer mon voisin, et bien mon geste part. Je suis spontané après tout. Pourquoi est-ce que je me retiendrai?
Il y a quelque chose dans votre propos d'un peu platonicien, presque idéaliste ou nominaliste, mais c'est pas une critique, hein, comme quoi la parole quelque part exprimerait une pensée. Au fond, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il faut parler pour penser. Comme le disait Hegel, c'est dans le mot que la pensée fait sens. Et donc, quelque part, je trouve que le risque de mal parler, de parler trop vite, est quand même intéressant, justement pour aller vers la pensée aussi.
Alors, je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'on pense dans les mots et que, bien évidemment, on met en forme. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tous ces arts de la parole que j'évoque sont des arts vivants. C'est-à-dire, ce sont des arts de la performance au sens de la représentation. Performance, ça veut dire de la mise en jeu. Ouais. Donc, ça veut dire que quand je dialogue, bah, c'est en situation. Vous ne savez pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que vous allez dire. Nous sommes en train de l'inventer ensemble. Nous parlons, nous donnons forme, les mots nous viennent et la pensée nous vient en même temps. Donc, on procède comme ça par tâtonnement. Bien sûr qu'il n'y a pas, comme Hitchcock faisait ses scénarios, tout dans la tête et considérait que l'acteur était en trop et dérangeait sa conception intérieure. Donc, bien sûr que c'est vivant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que ce soit vivant et que ce soit donc cette interaction et cette manière de dialoguer et donc, et je viens de la dimension politique, de faire société. Parce qu'une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est qu'on a perdu le commun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de faire société, de faire commun? Si on est dans cette logique de silo, pour parler comme on parle dans le monde du travail, d'accord? Nous, on est contactés parce qu'on donne des formations sur les arts de la parole, sur comment relier, comment fédérer, comment incarner, comment formuler sa pensée, sa parole, comment exprimer, comment interagir. Bon, donc, que sont les arts de la parole? Comment on va créer de la cohésion, créer du lien et rendre les gens auteurs de leurs paroles? On est contacté.
Par qui, par exemple?
Contacté par des collectivités. On a été contacté par l'école de la magistrature. On a été contacté donc par des écoles ou par des grandes écoles. Contacté par des entreprises, évidemment. Ouais. Et ils nous disent, voilà, on a un sujet, c'est que chez nous, dans les bureaux, les gens s'envoient des mails. Ils sont dans les bureaux voisins. Il y a à peu près un mètre entre eux. Et ils s'envoient des mails. Et on a un problème de cohésion. Je dis, ah bon, vraiment? Sans rire. Non, pas possible. Ben moi, je dis, pour faire une troupe à distance, bon courage. Voilà. Donc, si on veut faire du commun, si on veut faire du lien, il faut organiser des formes de présence collective, des formes d'interaction, il faut créer des cadres, sortir de l'illusion qu'on peut tout faire à distance. D'ailleurs, pour parler des entreprises, elles y reviennent beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, la question de comment on met ensemble, ça suppose justement de créer ce commun. Et c'est une question transversale.
Et ça suppose aussi peut-être d'être attentif dans un discours à quelque chose qui ne soit ni peut-être la façon dont c'est dit au sens de la parole pure, ni le sens au sens de la pensée, mais peut-être quelque chose qui serait de l'ordre de la mélodie.
Quand on parle, on chante. On n'en a pas forcément conscience, mais en réalité, notre voix parlée, elle a toutes les caractéristiques du chant, elle a un rythme, elle a un volume, et elle a une intonation, c'est-à-dire des hauteurs plutôt, de notes. Et ces trois dimensions, ça compose la musicalité de la voix, ça porte un nom en rhétorique, on appelle ça la prosodie, la musicalité du discours. Attention tout de même, parce que qui dit musique dit risque de fausse note, et en matière rhétorique, une fausse note, ça donne ça.
Ce que je veux, c'est que vous partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
Alors Gérald Guerutti, j'ai l'impression que vous avez mal aux oreilles.
Oui, oui, on peut pas dire que ce soit la meilleure performance du monde. Voilà, effectivement, tout à fait d'accord avec Clément Viktorovitch, avec qui d'ailleurs j'ai eu le plaisir de dialoguer cet été sur France Culture aux rencontres de Pétrarque. Ouais. Sur le thème peut-on encore se parler. Donc on est sur des regards très complémentaires. Il parle du pouvoir rhétorique et des enjeux de l'éloquence. Je parle des arts de la parole. Je pense qu'il y a évidemment un point commun qui est comment la parole est, je l'ai dit, vivante, incarnée. Et c'est tout, d'ailleurs tout le problème quand vous recevez des textos, des mails, vous n'avez pas l'intonation.
Ouais.
Vous n'avez donc pas l'intention, parce que pour avoir l'intention, il faut l'intonation.
Parfois, le ton change tout.
Le ton change tout.
Mais les émoticônes, ça donne une indication du ton.
Mais on a mis ça pour donner l'intention. Eh, je rigole, je suis ironique. Ouais. Non, c'est pas grave. C'est une manière de créer des émotions, mais 1000 émoticônes ne vont jamais avoir la puissance de l'intonation de l'émotion. Et c'est bien pour ça que la parole, et on est à la radio, on l'entend bien, c'est du grain, le grain de la voix, c'est de l'intonation, et c'est ce que moi je fais en direction d'acteur. Vous savez, par exemple, en Angleterre, et c'est un acteur, quand j'ai mis en scène Richard III, me l'a dit, et j'ai une forme de révélation. Il m'a dit, tu sais, Shakespeare, c'est d'abord de la musique. Et il me l'a prouvé. Ça veut dire que il m'a montré que il jouait dans Richard III le rôle de Clarence, un frère qui à un moment rêve qu'il se noie, il tombe dans la mer, il voit des crânes, enfin, vision absolument magnifique. Et il me l'a chanté littéralement. C'est-à-dire que avec simplement les hauteurs, les tessitures, eh bien, on faisait ressortir la poésie. Donc ce ne sont pas que des mots, c'est du poème, c'est du chant, c'est du vivant.
C'est de la musique. C'était Clou, Gare de Lyon.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin
sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Gérald Garrutti et c'est passionnant. Gérald, vous êtes dramaturge, metteur en scène, écrivain. Vous avez créé le Centre des Arts de la Parole. Vous êtes aussi, j'ai envie de dire, militant au sens le plus noble. Vous vous battez pour qu'on réapprenne à se parler. Or, dans votre livre que j'ai entre les mains, il faut voir comment on se parle, il y a des très belles pages sur la présence. Très belles lignes. Et vous dites au fond que c'est peut-être ça qu'on a perdu, l'attention, la présence, et que peut-être, avant de réapprendre à se parler, il faudrait réapprendre à être là. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que à la fin des états généraux de la parole, vous avez projeté le court-métrage de Judith Godrèche, que j'ai aussi reçu ici, on en a parlé ensemble, où personne ne parle, et où les gens sont là ensemble et en silence.
Oui, je dois dire, et là je remercie ma collaboratrice Élise Dumonteil, parce que c'est à son initiative qu'on a fait venir ce court-métrage et toute l'équipe du film, et un des moments les plus beaux pour moi de ce film, c'est la fin, c'est-à-dire au moment où vous avez toutes ces personnes qui défilent silencieusement, il n'y a même plus de musique, on a juste ces personnes qui marchent les unes après les autres, c'est un moment très fort, et c'est un moment, même si on est au cinéma, si je puis dire en tout cas, de présence, ça veut dire qu'on n'est plus là dans, on n'est plus dans le son, on est dans la présence. Oui, je pense que la question de la présence est capitale. Elle est capitale, notamment dans un monde, évidemment, où on a inventé le terme de présentiel, et où désormais, par défaut, eh bien, les réunions sont à distance. Et là, moi, je suis aussi assez... on nous le dit, hein, ça veut dire que c'est difficile de faire venir les gens en présence. Par défaut, désormais, c'est à distance.
Présentiel.
Le présentiel, une merveilleuse invention qui date du Covid. Je vous aurais dit, il y a quelques années, Charles, on va se rencontrer à distance. Bon, il dit, qu'est-ce que ça veut dire se rencontrer à distance? On peut se parler à distance, on peut s'écrire, on peut même se voir à distance. Se rencontrer à distance. D'ailleurs, c'est toujours compliqué dans un mail. Heureux de vous rencontrer. Ouais. Vous allez mettre ça à quelqu'un avec, après une visio. Bon. En tout cas, ça veut dire que cet enjeu de la présence est capital. Et c'est présence dans tous les sens du terme. Ça veut dire effectivement le fait physique d'être là, d'être des corps en trois dimensions avec la vibration, et c'est très très différent. Il suffit de voir un match de foot à la télévision ou dans un stade pour mesurer la différence, ou une pièce, ou quoi que ce soit. Je veux dire, faites un anniversaire en visio, ce sera quand même beaucoup moins fun que si vous êtes avec vos amis au même endroit. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été tellement dur durant le Covid, et qu'on a tous eu besoin de se précipiter après dans des cafés, des pubs, etc. On a un besoin infini de présence. C'est quoi la présence? C'est le souffle de la femme que j'aime sur mon épaule. Et on peut digitaliser, virtualiser tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, j'ai besoin de cette présence-là, et on est des êtres de présence. On en a besoin.
Alors, Gérald Garrutti, vous êtes aussi enseignant, vous avez enseigné aux universités de Nanterre, de Cambridge, de Chicago, vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Est-ce que, de votre place d'enseignant, vous avez vu l'évolution de l'attention, ce déclin, ce trouble de l'attention généralisée? Est-ce que vous l'avez observé?
Ah, malheureusement, j'ai plus... fait que l'observer, je le déplore. Je constate qu'effectivement, le temps d'attention, attention span, comme on dit en anglais, la durée de l'attention est de plus en plus réduite, que l'état naturel est une sorte de zapping fou, et que donc la capacité à rester concentré, attentif à quelque chose, est de moins en moins grande. C'est-à-dire qu'on est constamment bombardé de stimuli, et il y a une question générationnelle qui se pose. Alors je ne veux absolument pas être catastrophiste et imaginer que le monde sera bien pire et que c'était mieux avant. Mais simplement, je pense que nous vivons une révolution anthropologique, vraiment. Il y a eu le feu, l'imprimerie, la révolution industrielle, l'atome, Internet. Mais là, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de changer complètement de rapport à la réalité. C'est-à-dire que nous sommes à peu près de la même génération, je pense, nous avons tous les deux connu le monde de la rencontre, de la conversation, le monde du livre, enfin différents types de modalités de rapport au monde. Nos enfants sont encore entre deux, puisqu'ils sont en contact avec nous, qui avons connu ce monde d'avant. Mais les enfants de nos enfants, dont les parents, donc, ont eu pour rapport principal au monde la médiatisation par l'écran. Et encore, quand l'écran sera intégré à la lunette, à l'œil ou quoi, parce que ça peut arriver, je veux dire, si on veut augmenter l'homme, on peut aussi intégrer ces filtres-là. Oui. Donc la question, c'est bien celle de notre rapport au monde, à la réalité, et donc à l'altérité. Et comment, lorsqu'on est dans un, comment avoir un monde commun lorsque nous sommes dans des mondes customisés, sur mesure, c'est-à-dire lorsqu'on va pouvoir choisir, alors on choisit déjà ses informations, on choisit, c'est le monde à la carte, hein, mais jusqu'où on va dans la réalité à la carte? Est-ce qu'on peut se rencontrer si on ne partage pas la même réalité? Donc la question de l'attention, c'est justement la question de l'accueil de l'autre et la possibilité d'être en relation avec l'autre. Et quand on parle de présence au théâtre, par exemple, qui est l'un des arts que je pratique, vous savez, la présence au théâtre, ça n'est pas simplement le charisme, ça n'est pas la belle gueule de l'acteur. La présence, c'est le fait qu'il est là. Il est là. Il n'est pas en train de penser à autre chose. C'est l'art du présent et de la présence. Michel Bouquet, qui a été pour moi un ami et un mentor pendant près de 15 ans, j'ai eu cette chance de partager cela avec lui, quand il entrait sur scène, tout le monde se taisait. 90 ans. Alors vous allez me dire, c'est Michel Bouquet. Mais comment il est devenu Michel Bouquet? Comment il a pu avoir cette qualité de présence? Eh bien, il était absolument là. Et je vais partager un secret avec vous. Avant d'entrer en scène, tous les soirs, Michel Bouquet relisait deux fois intégralement toute la pièce. Il connaissait déjà tous les rôles, hein, tous. Ça veut dire que, par exemple, l'imaginaire, il l'a joué peut-être 2000 fois, il l'a relu 4000 fois. L'humilité qu'il faut pour faire ça. Et pourquoi il faisait ça? Pour que lorsqu'il était sur scène, il n'ait absolument pas à penser au texte et à autre chose qu'au moment présent. Il était absolument là. Eh bien, cette question de la présence, présence à soi, présence à l'autre, présente au moment présent, ce pouvoir du moment présent qu'on a pu évoquer, eh bien, je pense que c'est ce qui commence à nous manquer parce que nous sommes tout le temps ailleurs. Nous sommes ailleurs.
Mais peut-être qu'il relisait autant de fois aussi pour se laisser traverser par le texte, à chaque fois d'une façon différente, donc dans une présence différente.
Oui, mais il y avait toujours une forme de présence. Il était traversé, et de toute façon, on sait que les grands textes sont infinis. Moi, j'ai mis en scène Richard III deux fois, je pourrais le mettre en scène encore d'autres fois. Ces œuvres, ou le procès sur lequel j'ai beaucoup travaillé de Kafka, j'ai écrit un livre, ce sont des œuvres littéralement infinies, c'est le propre du chef-d'œuvre. Donc, évidemment que on peut les relire et les relire et les relire. Moi, j'ai des amis qui ont vu 100 fois Vertigo d'Hitchcock, et à chaque fois, sans doute, leur interprétation était différente. Donc, bien sûr, mais pour être traversé, il faut être disponible. Il ne faut pas être parasité.
Sur la mutation anthropologique que vous avez décrite, avec un peu de pessimisme, si je me faisais l'avocat du diable en essayant d'être un peu optimiste, on pourrait aussi imaginer que cette nouvelle génération, elle a un trouble d'attention généralisé, mais elle est peut-être capable de revenir plus vite dans l'attention, après en être sortie plus vite. Est-ce que vous, moi j'ai un peu observé ça avec mes élèves souvent, c'est que ils sont plus rapides en fait, plus rapides à décrocher, plus rapides à revenir, ils vont rester moins longtemps dans la présence, mais ils ont quand même une forme d'agilité.
Alors c'est certains qui sont sans doute, ils sont et ils vont être encore plus rapides que nous, encore plus branchés, avec des réflexes, etc. Bien sûr, mais vous savez, pour lire un livre, par exemple, Le temps de la lecture, le temps de la concentration de la lecture. Est-ce qu'on peut, alors on peut lire un livre en lisant une demi-page, repartir, revenir, on peut bien sûr. Mais la question de la capacité de concentration et de tenue dans le temps, ça veut dire comment on est capable de se projeter, de pas être simplement dans l'instant. Pour moi, alors je vais à un autre extrême, mais le fait que Donald Trump puisse un jour dire une chose et dire « je ne peux pas croire que j'ai dit ça » hier, c'est que le rapport au temps est un rapport où le passé n'existe pas, l'avenir n'existe pas. Là, vous savez, aux États-Unis, pour dire ça n'existe pas, on dit « this is history ». C'est fou. L'histoire, c'est ce qui n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est passé. Voilà, donc, je ne suis pas du tout anti-américain, j'y travaille.
Mais c'est aussi le problème du présent pur.
Voilà.
Soit dit en passant. Parce qu'il ne faudrait pas croire que pour retrouver de l'attention, il faudrait tomber un peu dans le cliché du pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. Parce que justement, l'idée, c'est qu'il y aurait un présent qui ne serait pas saturé de passé. Il y aurait un présent qui ne serait pas imprégné de passé. Et au fond, c'est faux.
Mais je sais ce que dit Augustin, moi je pense que dans ce présent se concentrent tous les temps, ça veut dire le présent du présent, oui. Le présent du passé, le présent de l'avenir, et c'est ce fameux texte magnifique d'Augustin sur le temps.
Saint Augustin,
oui, dans les Confessions, et en fait, je pense que la puissance du présent, c'est la capacité à concentrer l'ensemble des temps, et à se projeter dans l'ensemble des temps.
Eh bien Gérald Garrutier, pour retrouver de la présence, et du mystère, et de la vibration, et de la musique, je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un que vous aimez bien.
L'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il en lui un tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Cela faisait ce qu'on appelle un esprit.
Un esprit, Antonin Artaud.
Je suis très touché, Charles, que vous passiez cet extrait. Félicitations à votre équipe pour l'avoir trouvé. Oui, ce sont les enregistrements 47-48 d'Antonin Artaud. Il y a Pour en finir avec le jugement de Dieu. Il y a et en fait, on a là la voix d'Artaud, ce qui est assez rare. On l'a un peu au cinéma. Et vous savez, je suis touché parce que j'ai beaucoup travaillé sur Artaud, sur lequel j'ai fait ma thèse, sur Artaud et Brecht, et le concept de révolution. Comment peut-on changer le monde ? Avec Artaud, on a ce rêve d'un théâtre qui serait un théâtre absolu, de la présence absolue. On a d'ailleurs cette espèce de choc, puisqu'il a fasciné tous ses contemporains, Artaud. Breton, le plus désespéré d'entre nous, disait Breton, à un moment des surréalistes. Barreau, voilà. Donc Artaud, c'est vraiment une œuvre extraordinaire, c'est 30 volumes chez Gallimard, dans La Blanche. On retient souvent Les Cahiers de Rodez, La Folie, on retient évidemment Le Théâtre et son double, mais il faut savoir que effectivement, Artaud a fait ce rêve que d'ailleurs Derrida a considéré comme une impossibilité. On appelle la clôture de la représentation le fait que le théâtre d'Artaud est impossible. C'est un théâtre mythique, c'est un théâtre du présent pur, de la cruauté, un théâtre quasi magique, quasi mystique. Et donc, d'ailleurs, c'est bien pour cela qu'Artaud, après avoir traversé le théâtre, part au Mexique et fait des expériences chamaniques. C'est-à-dire que c'est cette espèce de quête, j'allais dire, de la présence pure, de la présence originelle. Donc, c'est sans doute un théâtre impossible. Il n'y a pas de théâtre d'Antonin Artaud, il y a une seule pièce qui est du sous-Shakespeare, mais il y a cette asymptote, cet imaginaire de ce que serait une présence pure. Alors évidemment, la question, c'est quelle dimension collective possible ? Parce que là, on est dans l'acteur, si vous voulez, la voix de l'acteur. Je voudrais en profiter pour dire une chose. Dans un texte extrêmement visionnaire d'Artaud, qui est justement Pour en finir avec le jugement de Dieu, qui date de 47, il imagine le monde futur. Et il imagine un monde de machines, simulacres, un monde de produits de synthèse, un monde entièrement artificiel, débarrassé de l'homme. Bon, alors, je ne veux pas être pessimiste, vous l'avez dit, mais je le redis, je crois à l'échelle humaine, je pense fondamentalement, et ce que j'aime d'ailleurs dans vos travaux, c'est qu'il y a quelque chose de cet élan joyeux, de quelque chose de, je dirais, d'inspirant et absolument pas de négatif, on n'est pas dans des passions tristes, hein, que ce soit la joie ou autre, donc je serais plutôt, moi, camusien, c'est-à-dire extrêmement désespéré et extrêmement engagé, voilà, aussi engagé que désespéré, mais je pense que c'est à la mesure et je pense que nous avons besoin absolument, et je pense que c'est l'ouvrage de chacun, de porter une parole qui soit pas simplement une parole destructif.
Aussi engagé que désespéré. En tout cas, la voix d'Artaud, ça vous a parlé. J'en profite pour faire une spéciale dédicace à Antoine Larcher et Laura Dumès qui ont trouvé ce son. Et vous avez bien vu qu'il fallait le trouver, que ça a résonné. Par ailleurs, vous êtes fils d'une psychanalyste. Ça a dû jouer un rôle dans le fait de savoir le prix du silence, le poids des mots, peut-être aussi l'ambiguïté, l'ambivalence des mots, le contraire d'un mot qui serait une balle, le contraire de cette communication balistique que vous avez évoquée.
Bien sûr que... Alors, c'est d'autant plus juste que vous dites que il se trouve que, comme ma mère voit très très mal, je lui lisais, quand j'étais enfant, 7-8 ans, ce qu'elle recevait comme annonce de programme pour les sociétés psychanalytiques. Donc, je ne comprenais strictement rien à ce que je lisais. Névrose de transfert,
le manque
etc.
du phallus...
Voilà. Et donc, je ne comprenais rien, mais j'ai baigné dans cette espèce de lexique, si vous voulez, très très tôt, et très certainement que la question de l'écoute...
Est-ce que parfois vous alliez écouter derrière la porte ?
Alors, non. Non, je n'ai pas écouté derrière la porte. D'ailleurs, la porte était trop épaisse pour qu'on entende, malheureusement. Non, c'est comme les alcôves ou les confessionnaux. Je pense que cette parole doit rester intérieure.
Heureusement pour les patients.
oui. Alors peut-être ça aurait fait des romans. Non. Mais en tout cas, cet espace de silence, de parole. Et je pense que aujourd'hui, dans le monde, en France en particulier, beaucoup de gens, je pense aux assistantes sociales, aux psychanalystes, beaucoup de gens, par leur écoute, font du bien, tout simplement. Et je pense qu'on aurait intérêt, dans des sphères différentes, publiques, et je reviens à l'école, puisque vous parlez d'écoute. Je pense qu'il faut apprendre à écouter. Et c'est peut-être le contrepoint que je ferai à la rapidité que vous évoquez des jeunes aujourd'hui, et c'est très bien cette agilité, mais comment on est vraiment aussi à l'écoute de l'autre. Voilà. Comment on n'est pas simplement dans la toute-puissance de l'individu, mais aussi dans la relation. Et ça passe par l'écoute, bien sûr.
La capacité de s'écouter et de se parler. Merci beaucoup, Gérald Guerutti, de nous avoir accompagnés sous le soleil de Platon ce matin. Je vais essayer de résumer ce que j'ai entendu. On va voir si j'ai écouté. Je dirais que vous êtes un philosophe du tremblement inspiré. Voilà, c'est ce qui a déclenché chez vous, Artaud, un philosophe de l'engagement, même si on est un peu désespéré, de l'attention et d'une forme de présence. Et cette parole aussi qui s'échange. C'est-à-dire que dans le dialogue, on sort de la communication. C'était aussi ce que disait Michel Serres, on n'est pas en train de dire « toi tu es l'émetteur, et toi tu es le récepteur, est-ce que tu as bien reçu ce que j'ai voulu émettre ?» Et puis on a entendu dans cet échange tous les deux la belle question de Michel Serres qui dit que quand il y a un vrai dialogue, au fond on se demande qui émet. Et on entend aussi une histoire d'amour hein, à travers cette polysémie de qui aimait, qui est aimé et qui arrive à se parler. Merci beaucoup Gérald Garrutti.
Merci Gérald Pépin.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chudebois. Elle a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Benjamin Wagon.